Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h05, vous écoutez RMC et depuis 9h, David Douillet, Pascal Duprat, Jérôme Pinault et Christophe Cessieux vous accompagnent. Si vous vous réveillez seulement ce dimanche matin, déjà vous avez de la chance et vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant sur l'appli RMC. Et puis vous restez avec nous puisque dans 30 minutes, les grandes gueules du sport vont remonter le temps. Le 14 février 2024, triste jour pour les fans de cyclisme, Marco Pantani était retrouvé mort dans un hôtel à Rimini. Une mort qui reste mystérieuse aujourd'hui. On en parlera avec nos GG. On parlera de l'aura du pirate dans le monde du vélo, toujours très forte. Et puis à 11h45, les GG, le débat caché. Les GG qui ne savent rien et qui pourtant vont devoir débattre, c'est toujours un grand moment. Est-ce que vous avez une idée de...
Ah ouais, moi j'ai bien une idée. Caché.
Vas-y, Christa.
J'ai bien une idée parce qu'il y a un sujet qui a disparu subrepticement hier soir au bénéfice de La Brune. C'est la déclat de Nico Batum sur le coaching.
Ouais, peut-être.
Hein, il dit que aujourd'hui c'est impossible d'entraîner les jeunes et que lui il n'avait pas envie de le faire. Mm-hmm. Je pense que tu as dû recycler ce truc-là.
Tu penses que je suis un recycleur?
Ouais, t'es un bon recycleur.
D'accord, très bien, on verra.
Jérôme, Max Apollin, toi, est un bon recycleur aussi, je le connais.
Notre producteur qu'on embrasse.
Écoute, moi, j'avais plutôt l'idée que tu allais nous parler d'un sport un peu mineur, mais qui fête une belle soirée aujourd'hui, puisque c'est la finale de la Coupe de France de hockey. On a pu voir sur les réseaux et tout ce qui a suivi ces deux équipes, Grenoble et Angers. Leur transfert.
Là, ça peut être un bon débat, ça.
Alors là, si c'est ça, tu vas nous parler de la différence et comme quoi la patinoire sera pleine.
Quelle est la cote pour ce débat là?
Je sais pas, franchement.
C'est des débats cachés. Ça serait intéressant d'en parler parce que les mecs d'Angers vont à Paris en bus.
C'est sûr.
Et alors qu'on a su la semaine dernière que les Madrilènes allaient à 200 bornes en avion.
Donc il a bien vendu.
La différence de coude. En fait, j'avais aucune idée, donc j'ai regardé ça un instant.
Pascal et David, une petite idée, non
mais
David,
moi, j'ai une idée, mais c'est juste pour le plaisir d'énerver Christophe.
Ah
donc, je pense qu'on va faire un sujet sur le nouveau but qu'a marqué Mbappé hier avec le Real Madrid. Je vois bien un petit sujet sur Mbappé.
Ah,
ça fait
Mbappé.
Fort longtemps qu'on n'en a pas fait
non, mais,
un.
Non, mais voilà. il faut qu'il y ait Jean-Christophe Drouet. Tu sais s'il n'a pas son débat à Mbappé à la fin du week-end, il tremble un peu. Tu sais, comme les mecs qui n'ont pas leur petit verre de blanc. À la fin de la journée, c'est pareil.
Donc, c'est la semaine prochaine alors.
Peut-être qu'il vous envoie des petits messages.
Ouais, non, mais là, il doit bien trembler. Je pense.
David, une petite idée aussi ou pas?
Ouais, sans conviction, parce que vous en avez déjà beaucoup parlé sur les antennes,
sur Dazone.
Le All-Star Game avec Wendy, quoi, basket. Quoi.
Ouais, qui s'est fait disqualifier hier.
Pas joué du tout hier.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a fait le parcours le plus vite possible, mais comme le point n'apportait pas de bonus, il shootait n'importe comment.
Et il s'est fait contourner
le règlement.
Il s'est fait siffler quand même par les salles. Ça pourrait
tricher.
Être ça, effectivement.
C'est ça.
Mais bon, il faudrait
il a contourné le règlement.
D'ailleurs, petite parenthèse.
On va lui envoyer maître Pascal Duprat, tu vas voir. Ça fait bien le truc.
Petite parenthèse, mais sur les contre-attaques, c'est plus la peine de voter. Parce que là, ça a évolué.
Parce que là, il faut savoir quand même que Christophe Cessieux ne va pas quitter le studio avant qu'il
j'ai été trahi par Mika et ça je m'en souviendrai. Mika, je m'en souviendrai. Il m'a trahi, il a usurpé mon identité pour faire voter sur le truc sur Gacha. Je vais lui envoyer Pascal Duprat, il va le tondre, il n'aura plus un poil de chat sur le dos.
Allez, 11h09 sur RMC, tout de suite c'est le moment pour les GG de vous emmener dans le futur. On va aller en 2030.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Les 26e Jeux Olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises.
L'objectif toujours qu'on essaie d'atteindre, c'est que les Jeux financent les Jeux et de limiter l'engagement des financements publics.
Rossignari, vous avez ma promesse.
On aura des Jeux Olympiques qui seront sobres, respectueux de l'environnement, mais qui seront une réussite et qui seront joyeux.
Il va passer devant, il va le faire,
quel match légendaire, champion olympique.
Le sport d'hiver, il a un vrai futur. On a la chance d'avoir le plus grand domaine skiable du monde. Nous voulons aussi construire les sports d'hiver en fait de demain. Et c'est une opportunité avec ces Jeux Olympiques.
Et ça y est, c'est fait. Félix Legrand est médaillé de bronze.
Magique.
Il a les mains sur sa tête, il a du mal à réaliser ce qui se passe.
On a envie de les faire rêver au travers de ces images des Alpes et de nos sportifs de haut niveau.
Champion olympique à la maison.
On ne se lasse pas évidemment de ces séquences sur RMC des Jeux Olympiques 2024. D'autres Jeux en France donc en 2030, des Jeux d'hiver. Et on a appris donc cette semaine la nomination d'Edgar Gros-Piron, président du COJO 2030, les Jeux d'hiver qui seront forcément comparés avec les Jeux de Paris 2024 puisqu'ils arrivent
Arrête
juste après.
Arrête de tout vouloir comparer.
D'où cette question, les GG. Est-ce que le match face à Paris 2024 pour les Alpes 2030 est déjà perdu d'avance? Oui ou non, Pascal Duprat?
Non.
David Douillet?
Non.
Jérôme Pineau?
Oui.
Christophe Cessieux?
Non, parce qu'il n'y a pas de match entre les deux.
Voilà, d'accord.
Juste
voilà.
Avant de vous entendre, les amis, on va accueillir Julien Richard. Salut Julien.
Salut tout le monde.
Tu es en Suisse pour suivre les championnats du monde de biathlon. Les Français brillent et on espère qu'ils vont briller à nouveau aujourd'hui avec la poursuite chez les dames et chez les hommes. Mais d'abord, parle-nous d'Edgar Gros-Piron, donc nommé cette semaine. C'est quel profil, Edgar Gros-Piron?
Alors, clin d'œil de l'histoire, déjà, il a été nommé à la tête d'Alpes 2030, 33 ans, jour pour jour, après son titre olympique à Albertville en 92. On se souvient tous de sa combinaison bariolée, de son style, de son côté showman. Mais ceux qui l'ont côtoyé de près, comme son entraîneur, ou encore des chefs d'entreprise qui font appel à lui pour donner des conférences, il s'est reconverti en conférencier, disent la même chose. Derrière la grande gueule, il y a un gros bosseur qui se cache, justement, qui joue de ça, de cette image. Le choix de Gros-Piron, en tout cas, fait consensus auprès du G5, les décideurs, à savoir le ministère des Sports, le comité olympique et paralympique, les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a convaincu, je cite, par son énergie, sa passion, son expertise, sa capacité à fédérer les acteurs du mouvement sportif. À 55 ans, il répond à tous les critères pour devenir ce fameux Tony Estanguet-Montagne, un grand champion, champion olympique, donc triple champion du monde. Il a aussi connu de façon éphémère l'aventure de la candidature d'Annecy pour les Jeux de 2018. Il s'était retiré 6 mois avant la désignation. Il regrettait le manque de moyens. Et puis, adoubé par le monde de la montagne, proche du CIO, reconverti en conférencier, je vous le disais, donc à l'aise devant les micros, c'était une évidence pour les décideurs dans cette situation d'urgence à 5 ans des Jeux.
Et il a des chantiers en vue de 2030. Quels sont ses principaux chantiers?
Fédérer, c'est d'ailleurs ce qu'il avait écrit dans sa lettre de candidature. Grosse mission au vu des derniers mois qui ont été quand même chaotiques, qui ont poussé le CIO à dire dans un communiqué qu'ils attendaient avec impatience un boss pour 2030, ce qui en langage CIO veut dire on n'est pas content. Fédérer, donc constituer son équipe pour commencer. Première urgence, peut-être aussi définir la carte des sites. Il y aura des choix à faire, il va falloir trancher, faire des déçus aussi peut-être.
Ah, on a perdu Julien, on va le retrouver dans un instant.
Si déjà les liaisons ne marchent pas avec les Alpes,
on a suffisamment d'éléments.
Merci en tout cas Julien. Et si on le retrouve, on lui fera un petit coucou puisqu'il y a le biathlon qui va suivre également cet après-midi. Donc Jérôme, toi tu es le seul dans le camp du oui, le match est déjà perdu d'avance entre 2030-2024.
Ah, je suis le seul parce que je ne voulais pas dire comme les autres. Voilà.
Donc on arrête là.
Je dis oui pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, on va devoir. Les deux jeux vont être comparés.
Mais oui, évidemment.
C'est une évidence. Ça commence dès la nomination du président du COJO qu'on appelle
le Tony Estanguet.
Le Tony Estanguet des Alpes, déjà des montagnes. Donc déjà on compare et on sort d'un événement si réussi, si beau. De quelque chose qu'on a vécu avec énormément de passion, que de toute façon on devra il y aura des comparaisons et on peut pas comparer. Je suis d'accord avec l'ensemble des garçons autour de la table parce que c'est pas le même environnement, ce sont pas les mêmes jeux, ça ne touche pas autant de population, c'est pas le même engouement pour toutes ces disciplines de neige et de glace, même si comme le
pour
président...
autant Jérôme, tu penses que les Jeux 2030 ils vont pas être beaux?
J'ai pas dit qu'ils allaient pas être beaux. J'ai dit qu'ils allaient souffrir de la comparaison. C'est pas dit. Ça n'a rien à voir avec être beau.
Je suis pas du tout d'accord avec toi. Alors, sur la ligne de mes collègues, il n'y a pas à comparer parce qu'il s'agit de jeux.
Mais ils seront comparés.
Ils seront comparés, Pascal. Ils seront comparés.
Et moi, je suis pas certain que ces jeux-là seront comparés.
Ils seront plus comparés peut-être aux jeux de 92.
Les derniers jeux d'hiver en France, avec les jeux d'Albertville, mais pas avec les jeux d'été. Et puis, comme encore une fois, les Alpes, en l'occurrence, que je défends, tout comme Christophe, on va réunir les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, et on va faire des Jeux Olympiques. Ils vont faire des Jeux Olympiques, encore une fois, exceptionnels, parce que la France a, en ce domaine, un savoir-faire, tout simplement. Donc, la comparaison, ceux qui continuent à s'enorgueillir, et ils ont bien raison de le faire, de la réussite des Jeux Paris 2024.
C'était les premiers à critiquer et à dire que ça allait être une catastrophe.
Sauf qu'à Paris, on a vite trouvé le patron, que tout le monde était d'accord, on a entendu l'appartien qui nous dit on va faire des JO qui se financent eux-mêmes parce qu'il ne faut pas compter sur les deux régions. Et moi, depuis le début de la nomination, des Jeux pour les Alpes, je n'entends qu'une chose, c'est les deux présidents de région qui tirent à boulets rouges pour savoir qui va avoir la lumière. Déjà, ça commence très mal.
C'est pour ça qu'on
a mis en plus aujourd'hui.
D'avoir surtout Barnier.
En espérant que Edgar Gros-Piron soit le vrai patron.
Avec Barnier. Les premiers, rappelez-vous, avant Paris 2024, le nombre de critiques. On a marché dessus. Paris 2024, c'était un paillasson. Tout le monde s'essuyait les pieds dessus en disant ce serait une catastrophe. Et Paris va être une poubelle. Et Paris sera invivable. Tout le monde va se casser. Il y a tellement de gens. On a dit ça à tellement de gens que tous les Parisiens sont cassés. Et quand ils ont vu l'incroyable succès des Jeux, les mecs avaient les boules et ils essayaient de revenir et d'acheter des places. Et ben tant pis pour eux, vous êtes cassés, vous êtes fait prendre la tête. Écoute, moi j'ai un peu l'impression que ce sera la même chose avec ces Alpes 2030. On a un vrai savoir-faire, Pascal le disait, en matière d'organisation.
Et j'ai pas dit que ça serait une catastrophe, j'ai dit qu'ils allaient souffrir de la comparaison.
En France, ça a été une réussite. Était trop petits, mais en 68 à Grenoble, ça a été une fête nationale. Le président de Gaulle est allé sur place. Il y a des films qui ont été créés. Jean-Claude Killy est devenu une icône nationale. 92, rappelez-vous, c'était il y a 30 ans. Je vous en ai parlé la semaine dernière.
Mais il n'y avait pas eu de JO 6 ans avant.
Se souviennent de la cérémonie d'ouverture ou d'Edgar Gros-Piron qui remporte la médaille olympique.
Il n'y avait pas eu de Jeux Olympiques à Paris 6 ans avant.
Un formidable vecteur de développement pour toutes les Alpes, toute la Savoie. Et aujourd'hui, on dit les Alpes 2030, ça va être moins bien que Paris 2024. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est français de critiquer, de dire que de toute façon on sait rien faire et que ça va être de la merde. Je suis pas d'accord avec
ça. Mais on n'a pas dit ça. J'ai dit que ça allait souffrir. Les Français vont s'attendre à voir en 2030 les mêmes jeux qu'à Paris. Ça n'est pas possible. Déjà, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes sports, c'est pas la même chose.
La descente, on la fera pas sur la Seine, ça c'est sûr. C'est pas les mêmes jeux.
Mais dès la cérémonie d'ouverture, il y aura peut-être une comparaison avec la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024.
Mais là, la construction des jeux va être comparée. La preuve, on vient de nommer le président du COJO, on le compare déjà à Tony Estanguet. Et ne me dis pas, vous médias, que vous n'allez pas comparer jour après jour les décisions prises. À Paris, on faisait comme ça. Et c'est sûr, ils vont tomber dans la comparaison. Ma réponse, c'est oui, ça va être comparé. Et oui, c'est déjà perdu d'avance. Okay. Si on compare, ce sera différent, mais on ne pourra pas se comparer.
Mais ça peut être bien quand même, évidemment.
Surtout s'il y a une épreuve de cyclocross.
David Douillet.
Oui, ça va être comparé. Mais pardon, j'en termine et après je te laisse la parole, David. Oui, bien sûr que ça va être comparé, mais oui, bien sûr, ça va être un succès, comme Paris 2024.
Okay.
Voilà, tout simplement.
On est d'accord, Marcel Pagnol?
Non, ce n'est pas perdu d'avance, parce que en réalité, tout ça va s'inscrire dans une continuité de Paris 2024. Il est bien évident que c'est pas le même budget, sont pas les mêmes infrastructures. On avait à Paris des monuments. Nous on a les Alpes qui est les Alpes du Sud et du Nord qui sont à L2 des monuments aussi. Des épées de Damoclès, notamment sur l'éco-responsabilité qui sont colossales
et climat.
Sur ces jeux, comme aussi sur ce qui ça existait aussi sur Paris 2024. Mais moi, je parlerai de continuité. Et c'est là tout l'enjeu de Cora à résoudre cette équation, Edgar. Et je peux vous assurer, pour bien le connaître, notre ami Edgar Gros-Piron, c'est un excellent choix. Parce qu'Edgar, c'est un chef d'entreprise. C'est un champion olympique, qui est connu et reconnu. Mais aujourd'hui, c'est surtout et avant tout un chef d'entreprise qui sait mener une entreprise. Et la conduction de l'organisation de Jeux Olympiques tel que ça se préfigure, c'est exactement une énorme entreprise. Il a une autre qualité, il sait il côtoie des politiques, il côtoie des gens de différents avis, de différentes tendances, depuis des années. Il a 55 ans, il a le cuir épais, il a toutes les qualités pour réussir comme l'a fait Tony. Et moi j'adore qu'on le compare à Tony, qu'on dise que c'est le Tony Estanguier des Alpes, c'est formidable, parce que ce sera une réussite pour le coup. Donc il va s'inscrire dans une continuité d'excellence, une continuité qui va démontrer que, qu'on soit l'été ou l'hiver, la France est une grande nation quant à l'organisation de grands événements sportifs. Il va réussir son pari, j'en suis certain, en contournant, en sautant tous les obstacles de quelque ordre qu'il soit, que ce soit financier, que ce soit idéologique, que ce soit politique. Je me fais pas de soucis. Moi, j'ai été extrêmement rassuré que ce soit Edgar qui soit à la tête de ces Jeux Olympiques.
Oui, même si il arrive après Martin Fourcade, puisque c'était le choix numéro un, et on le rappelle, le départ de Martin Fourcade reste un petit peu nébuleux.
Il me semble t'avoir entendu à l'antenne dire que Martin était quasiment incontournable.
Oui,
mais on lui a mis trop de bâtons.
Martin a pris une décision.
Pourquoi il n'aurait pas les mêmes bâtons pour Edgar Gros-Piron? Parce que surtout les bâtons,
on ne va pas les prendre.
Je dis simplement.
On est déjà en train de comparer, vous avez remarqué quand même.
Oui, mais il est dans
David, il assume la comparaison.
Oui, j'assume. Edgar est dans une légitimité totale, comme pouvait l'être Martin, qui a refusé et qui a pris sa décision. Et sa décision, personne n'a le droit de la critiquer. C'est sa propre décision. Maintenant, Edgar est en capacité. C'est rassurant d'avoir un garçon comme Edgar à la tête des JO.
Après, on a qualifié les Jeux de Paris 2024 comme peut-être les plus beaux Jeux de l'histoire. Force est de constater qu'on va vouloir la même chose pour les Alpes. La barre est très haute.
C'est formidable comme défi. Edgar est un compétiteur, je suis désolé.
Et je ne dis pas qu'ils ne vont pas être réussis. Alors encore une fois, évident. J'ai pas dit que ça n'allait pas être réussi, j'ai juste dit qu'on allait comparer les deux.
Oui, mais c'est pas grave,
je suis pas sûr qu'on ait comparé Salt Lake City
avec Los Angeles. Edgar, c'est pas un problème, hein.
C'est pas les mêmes compétitions, c'est pas les mêmes.
Alors, si on revient sur le sportif, effectivement.
Oui, mais t'auras toujours.
Est-ce que c'est le même public?
Le flot des personnes qui diront. Cette espèce de masse globale qui dira les Jeux d'été, les Jeux d'hiver, c'était plus beau, moins beau, etc.
Bien sûr.
Les Jeux d'hiver vont être splendides, magnifiques, grandioses.
Dans ces cas-là, la donnée écologique est très importante parce qu'il va y avoir sans doute.
Il y avait beaucoup de neige en Chine lors des derniers Jeux de Pékin.
On n'est pas la Chine. On a entendu les critiques justement autour de ces Jeux d'hiver.
À ce moment-là, si vous voulez, arrêtons les Jeux d'hiver. Ne faisons plus des Jeux d'été.
C'est un vrai débat. Le problème, c'est peut-être que justement, les Jeux d'hiver, en comparaison avec les Jeux d'été, il y a déjà, malheureusement, c'est pas la même chose, c'est peut-être pas le même public.
Attention, parce que les Jeux d'été en pleine canicule à Los Angeles en 2028, quand il fera 53 degrés, tu sortiras pas de ton IBC, mon François. Tu vas rester dedans, bien au chaud, bien au froid, dans la clim. Mais non, mais à ce moment-là, tout est sujet évidemment à l'évolution du climat. Les Jeux d'été comme les Jeux d'hiver sont sous la menace d'un changement climatique.
Du Cojo. Ouais. C'est l'enjeu. Comme l'a dit David, il est écologique et climatique. Il est évident que de toute façon, que ce soit dans les Alpes ou ailleurs, on voit les images du championnat du monde en Autriche, c'est pas super enneigé. J'ai eu la chance de pratiquer, et je me suis fait plaisir, je l'ai broyé cette piste, la piste rouge David Douillet, dans les deux allées. Il y a de la neige, les gars, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est le seul moyen que je peux pour monter sur Douillet, c'était de faire la piste rouge. Je me suis régalé.
Elle est vraiment rouge ou elle est bleu-verte?
Non, elle est rouge.
Elle est très politiquement rouge. Elle est raide mais praticable.
Elle est rouge sans problème. Elle est très technique.
Ouais, et
elle
est faite pour les skieurs
qui aiment le ski.
T'aurais
voilà,
pu
c'est
exiger
cool
une noire quand même, David. Hein, franchement,
c'est génial.
Parce qu'une noire, ça sert à qui? Ça sert aux excellents skieurs. Moi, je suis pour démocratiser le ski. Et une piste comme la mienne est faite pour tout le monde, tous les niveaux. Même pour toi, Christophe.
J'ai cherché la piste, Christophe. C'est sûr, j'ai jamais trouvé.
Ah non, ça y est.
Voilà.
Au Liberty, dans la station, par contre.
Exact. Ouais, c'est ça.
La piste dedans.
Exactement, dans la boîte de nuit.
Non.
non, ça c'est
la. Si, la piste des années 80 a été renommée la piste Christophe Chabal,
ça c'est autre chose.
Les pistes noires, ça. Attention. Bon, on a noté tout ça. Merci beaucoup. On va reparler évidemment jusqu'en 2030. Hein. On espère d'ailleurs que les grandes gueules du sport iront jusqu'en 2030. Mais là, il n'y a pas de débat. On est
ça dépend du climat. Ça dépend du climat. Ça dépend du climat.
Si c'est le climat qui va peut-être jouer sur toi.
S'il fait trop chaud,
le climat est bon entre nous.
11h24 sur RMC. On va remercier Julien évidemment d'être passé et on rappelle hein, les événements aujourd'hui. Midi 5, la poursuite d'âme. On sait qu'en biathlon, on est très fort. C'est du biathlon et c'est à ne pas rater sur RMC. 15h05, la poursuite messieurs aussi avec des grandes chances de médaille. Et puis on rappelle aussi l'information de la matinée. Clément Noël qui a dominé la première manche de slalom aux mondiaux de ski alpin à Salbar et on suivra la deuxième manche à partir de 13h15 sur RMC. Il faudra vraiment être au rendez-vous avec peut-être la première médaille dans ces championnats de monde de ski. Dans un instant, les GG remontent le temps et on va revenir 21 ans en arrière, le jour de la mort de Marco Pantani, un événement qui a marqué le monde du sport. On revient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Elles sont là, elles sont en pleine forme, nos grandes gueules du sport. Ce dimanche, Christophe Cessieux, David Douillet, Jérôme Pinault, Pascal Duprat. Dans 15 minutes, il y aura le débat caché.
Maître Duprat, s'il te plaît.
Ah, mais c'est maître.
N'oublie pas son titre.
Il a été rebaptisé. Enfin, ça y est, il est avocat. Avocat, j'ai bien compris. Maître Duprat, donc. Dans 15 minutes, le débat caché des grandes gueules du sport. Je peux juste vous dire que vous n'avez pas visé dans le mille.
Ah.
Donc ça sera une petite surprise.
Tu n'es donc pas un recycleur.
Non, je ne suis pas recycleur. Mais d'abord, les grandes gueules remontent le temps.
Alle 21:30 di ieri è stato ritrovato a Rimini nell'hotel residence il cadavere di Marco Pantani. Il decesso risalirebbe alle ore 17.
Et on revient 21 ans en arrière, Christophe, pour revivre avec toi le triste épilogue d'un certain Marco Pantani.
Ce 14 février 2004, à l'heure où Lance Armstrong prépare chez lui au Texas son sixième succès sur le Tour de France, au moment où Richard Virenque lui rêve éternellement de maillot à pois en Italie, sur la côte adriatique, leur plus grand rival quitte à jamais le peloton.
Madame, monsieur, bonsoir. Marco Pantani est mort seul hier soir dans une chambre d'hôtel de Rimini à quelques kilomètres du village où il était né. Il s'était isolé dans cet hôtel depuis 4 jours. Le coureur de 34 ans gisait à même le sol près de son lit. Une boîte anxiolytique a été retrouvée dans sa chambre. Le procureur de la République, dans une courte déclaration, a exclu le suicide, mais on attend évidemment le résultat de l'autopsie.
Une annonce qui plonge aussitôt tout le pays dans la tristesse et l'incrédulité. Les Italiens qui l'idolâtraient ont du mal à comprendre comment leur champion ait pu chuter de la sorte aussi rapidement. Sur son décès, toutes les hypothèses seront évoquées, suicide, overdose ou même meurtre, supputation restée jusque-là sans réponse véritable. Il n'empêche, au moment de son décès, Pantani n'était plus que l'ombre de l'immense grimpeur qui, durant une décennie, enflamma les commentateurs du monde entier.
Attacco Pantani.
Le pedalate di Pantani da solo al comando sul Mortirolo. Straordinario, veramente straordinario.
Pantani s'envole vers un succès italien sans doute ici à l'Alpe d'Huez. Formidable Pantani.
Dès que la route se cabrait, le petit Italien au crâne chauve et aux oreilles décollées ne pouvait s'empêcher de se dresser sur ses pédales et de mettre à mal la concurrence. De formidables qualités de grimpeur qui le conduisent au plus grand succès, d'étapes tout d'abord comme celle de l'Alpe d'Huez ou du Mortirolo. Mais en 98, il change de braquet. Cette fois-ci, ce sont les maillots qu'il vise, le rose du Giro puis le jaune du Tour de France, dont ils se partent tous les deux en l'espace d'un été.
Pantani qui s'envole ici, qui sait qu'après sa victoire dans le Tour d'Italie, il peut remporter le Tour de France, ce qui est historique, ce qui est rare. Quelques 4-5 coureurs au maximum dans l'histoire du cyclisme ont réussi cette performance.
Un Tour 98 entré dans les annales pour la victoire de Pantani, mais surtout pour la tristement célèbre affaire Festina qui va jeter pour plusieurs décennies l'opprobre et l'ombre du dopage sur le peloton. Et Pantani n'y échappera pas. En 99, à 2 jours de l'arrivée du Giro, alors qu'il en est le leader, il est mis hors course pour un taux d'hématocrite suspect. Le pirate est sous le choc.
Je suis revenu après 2 gros accidents, mais cette fois-ci, moralement, je touche le fond. Pour l'instant, je voudrais seulement un peu de respect et je salue les tifosi.
Un saluto ai tifosi.
Mais le pirate a de l'orgueil et encore des jambes l'année suivante à lui permettre de jouer d'égal à égal dans le Ventoux avec Lance Armstrong.
Victoire de Marco Pantani devant Lance Armstrong. Le tour pour Armstrong, l'étape du Ventoux pour Pantani.
Un succès amer pour Pantani qui a bien remarqué qu'Armstrong lui laissait l'aumône de la victoire en ne bataillant pas jusqu'au bout. Ce tour, Pantani l'abandonne quelques jours plus tard. Il n'en reverra plus jamais les routes. En 2001, échaudé par les nombreux soupçons, les organisateurs décident de ne pas l'inviter. Dans le même temps, il est exclu du Giro après qu'une seringue d'insuline ait été retrouvée dans sa chambre. Cette fois-ci, le champion touche vraiment le fond. Il sombre dans la dépression et les addictions. Une longue descente aux enfers débute. Elle le conduira vers Rimini.
Pour cette histoire et pour ce retour dans le temps.
Ah, la chanson des Vampas consacrée à la disparition.
Énorme.
Grand fan de vélo.
Exactement. Et si vous voulez en savoir plus encore sur Marco Pantani, je vous conseille et je vous recommande le podcast Panthéon sur Marco Pantani qui vient de sortir. Il est tout chaud et c'est à retrouver sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes de podcast. Il y a Richard Virenque, Luc Leblanc, Patrick Chêne qu'on
a entendu. Et surtout Philippe Brunel qui est le maître en matière de Pantani. Qui connaît tout, qui a écrit, qui a enquêté sur sa mort et qui sait tout de Marco.
Voilà, à écouter Nicolas Jamin prête sa voix et à la production Maxime Abolin donc sur toutes les applis. Et oui, parce que Marco Pantani, il a marqué les esprits, tu l'as dit, il a un style inimitable. Est-ce que vous comprenez, les GG, que Pantani a toujours cette aura malgré les affaires de dopage? Oui ou non, David Douillet?
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Christophe Cessieux.
Oui.
Jérôme Pinault.
Je vais en surprendre plus d'un, mais oui.
Alors David, on va commencer par toi, puisque tu dis non, toi. Tu ne comprends pas cette aura autour de Pantani?
Ben non, parce que c'est une aura qui est malsaine, qui est empreinte de suspicion de dopage, voire de dopage avéré, et qui, quelque part, c'est un vol. Quelqu'un qui a des performances avec, on en a parlé tout à l'heure, grâce à des produits, c'est un voleur au regard d'autres qui ne le font pas. Donc il a volé des succès à d'autres, il a volé des victoires à d'autres, il a volé une carrière à d'autres, et donc il a été mis en lumière, on en a fait un espèce de monument parce que il a une mort tragique, malheureusement. Pour moi, c'est une victime d'un système, ce garçon. Mais son aura a été construite sur quelque chose qui est faux et qui est malsain et qui l'a conduit à la mort. Donc c'est alors que son aura serve à quelque chose pour mettre en garde tous ces gamins, tous ces jeunes qui pourraient rêver à travers des carrières comme celle de Marco Pantani, qui gratte un peu plus pour se rendre compte que les victoires ne sont méritées que lorsqu'elles sont propres et saines et pas de cette manière-là. C'est la très mauvaise voie, voilà, c'est ce que je pense.
Ça doit pas être un exemple, on l'a bien compris, et c'est vrai que bon, peut-être que certains sont gênés qu'on reparle à chaque fois de Marco Pantani.
Je sais pas s'il a volé à beaucoup de monde à l'époque, parce que ouais, 98-99 Jérôme pourrait nous le dire
exactement
plus précisément,
mais
il a volé à tous ceux qui ne se dopaient pas, et il n'y avait pas beaucoup à l'époque, mais il devait y en avoir quand même dans l'eau, j'aime le vélo j'ai l'illusion de croire que tout le peloton n'était pas dopé.
Mais en fait,
ce que tu dis, David, c'est volaient tous les autres.
Mais voilà. On est tous d'accord avec toi, David, sur ce que tu dis. Bien sûr, on n'encourage pas le dopage sous prétexte qu'on comprenne l'aura qu'a Pantani. Moi, je le comprends, je vais te dire pourquoi. Parce que quand on a fait ce sujet, je me suis remémoré et je suis allé retourner sur Wikipédia pour essayer de me rappeler. J'étais dans le col de Jouplane en 97. L'étape, c'était Courchevel. Morzine, donc ils arrivaient pas loin de chez moi. Et dans le dernier col, dans Jouplane, il a envoyé une mine. Il a envoyé une mine et il a mis une 17 à tout le monde. Dieu sait si on avait des super coureurs, Virenque et compagnie. Donc j'ai l'image de ce chauve. Il avait pas le bandeau encore. Il était fascinant sur le vélo. Il avait une aisance en montagne incroyable. Christophe, tu peux Mais je pense que même sans ce prix-là, il avait l'aisance quand même. Voilà, je pense que s'il n'avait pas été, s'il n'avait pas été dopé, je pense qu'il aurait été un excellent grimpeur.
Je ne crois pas, parce que du jour où il y a eu des suspicions de dopage, où son tour des motocrites était tout à fait anormal, et ben ça a été la descente aux enfers, et la descente aux enfers sportive. Donc ça veut bien dire que c'était le produit qui le tenait.
Je comprends ce que tu dis, mais tout simplement, c'est mon point de vue, et il est respectable en cela. Je suis contre le dopage, bien entendu, comme tous les sportifs qui l'ont été. Mais je peux dire que j'ai plus d'affection pour Pantani que j'en ai pour Armstrong.
Oui, ah, mais ça n'a rien à voir.
C'est pour ça que je voulais prendre la parole.
Nous, on peut être un peu surpris, et ceux qui nous écoutent, évidemment, de t'entendre dire que tu comprends cette aura alors qu'il a été dopé.
Je comprends cette aura, je vais même aller plus loin. Je suis peu fan dans ma vie, à part d'un mec peut-être ou deux sur le vélo, et c'était pas Jalabert, et c'était pas Virenque, c'était Marco Pantani. Pourquoi ? Parce que c'est le campionissimo par excellence. Et si il y a bien une chose que je ne souhaite pas et que je ne supporte pas, c'est que l'on compare Armstrong à Pantani. Pourquoi ? Parce que Pantani a dominé et gagné des courses dans une époque où c'était la même chose pour tout le monde. Tout le monde était dopé, ou quasiment tout le monde.
Non, je suis pas sûr.
Bien sûr que si. Ces grands-là, oui. Et j'ai même moi dit souvent.
Ces grands-là, oui, mais pas les autres.
Ouais, mais les autres, il n'y en avait pas beaucoup.
Mais je me souviens.
Excuse-moi, j'ai fait un peu plus de vélo que toi et j'ai un peu plus parlé à des garçons qui étaient dans ce peloton à cette époque-là. Je peux te dire que même les mecs qui ne voulaient pas se doper n'avaient pas le choix d'y passer. J'ai mon frère Sébastien qui n'a pas pu faire carrière parce que arriver chez les pros en 98, c'est soit tu acceptes de te doper, soit tu ne passes pas pro. C'était comme ça.
Il y avait un peloton à deux vies. Il y avait deux pelotons.
Non, mais il y avait un tout petit peloton qui était à l'eau, mais
ceux qui avaient les capacités, ceux qui avaient les capacités de dominer les grands tours, David, étaient comme Marco Pantani, c'est-à-dire dans ce système-là où c'était quelqu'un qui était à part, c'est son histoire, sa famille, ses premiers tours de roue, sa mère, la maman, qui est toujours là avec lui, qui est son agente, qui est son impresario, qui le suit partout. Il a été victime de graves accidents en course. Il revient et il domine. Il a dominé dans une époque où le spectre du dopage était présent.
On ne peut pas. S'il n'y a pas de dopage, il n'y a pas d'aura. C'est ça que je veux vous faire comprendre.
C'est un autre.
L'aura dont on parle n'existerait pas si il s'était pas dopé.
Il n'y a pas que les victoires, en fait.
Et la légende Marco Pantani, elle naît aussi de l'histoire qu'il y a derrière ce dernier contrôle antidopage à Madonna di Campiglio. Là où il se fait définitivement prendre, l'Italie se met du côté du pirate parce qu'elle pense que comme c'est un petit d'une petite région, elle prend sur elle et la défense de Pantani parce que c'est le petit qui se fait abattre par la région du Nord, par la Lombardie. Voilà pourquoi l'Italie se saisit de cet amour pour ce coureur, même quand bien même il a triché. Il faut savoir aussi qu'en Italie, la culture cycliste est pas du tout la même que nous. Pas du tout la même. Il y a des coureurs qui ont triché et qui sont aujourd'hui directeurs d'épreuves, qui sont aujourd'hui en pleine lumière.
En France aussi. Hein.
En France aussi. Ils ont du mal à l'avouer, certains. Mais c'est normal ou pas normal. Après, l'aura qu'il a, c'est parce que c'est l'un des grands de ce
le
monde.
Look aussi.
Je le compare pas plus, pas moins qu'à Frank Vandenbroucke en Belgique. Ouais. Frank Vandenbroucke en Belgique est un héros parce qu'il est parti. Parce qu'il est parti avec tout ça. Et Philippe Brunel le raconte, mais formidablement, il est parti avec le mystère de sa mort. On ne sait toujours pas comment Marco Pantani, ce grand champion qui a gagné le Tour de France et le Tour d'Italie, on ne lui a pas enlevé à lui, comment il est pareil, on ne sait pas.
Est-ce que
et
tu
on
te rends compte de ce que tu es en train de dire?
On ne peut pas comparer
que
Armstrong.
Tu es en train de dire.
Ouais.
Non, mais c'est terrible parce que tu es en train de dire que le mec, il a son histoire, c'est un petit, il s'est dopé, oui, mais on le pardonne et il en meurt parce que, excuse-moi.
Non, il est pas mort. Il est mort de la drogue.
Il est mort d'une addiction qui probablement est due Non, je suis désolé, là vous n'allez pas me raconter la messe. Cette addiction, elle est née de quelque chose et elle est du dopage. Voilà, c'est toujours pareil. Le dopage dans sa forme provoque, et on le sait, des addictions massives derrière. Et je suis désolé, ce garçon, s'il ne s'était pas dopé, ne serait peut-être pas mort aujourd'hui. Il serait pas connu.
Armstrong, il a l'air de se.
Il serait pas connu, bah peut-être, bien, mais en tout cas, lui, il est tombé dans une addiction telle que.
Non, mais tu fais des raccourcis, David.
Oui, je fais des raccourcis.
C'est pas parce que t'as été dopé que tu finis que ça débute. Tous les dopés finissent pas avec des overdoses et des aiguilles dans le bras ou.
Mais écoute-moi, sa dépression. Mais sa dépression. Mais vous êtes en dehors de la vérité. Sa dépression est due à cette dégringolade. Or, s'il y a eu dégringolade, c'est qu'il était, il a été monté très haut artificiellement.
Et s'il n'était pas monté,
et s'il n'était pas monté très haut, il n'y aurait jamais eu de dégringolade, il n'y aurait jamais eu d'addiction.
Sa dépression, elle est due par sa conviction d'avoir payé pour l'ensemble du cyclisme italien.
Alors, mais c'est pareil, tu es donc d'accord avec moi.
Vincent est avec nous au 32-16 dans les grandes gueules du sport pour parler de Marco Pantani. Salut Vincent.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Merci d'être avec nous.
Bonjour Vincent.
Tu te places dans quel camp est-ce que toi, tu comprends cette aura de Marco Pantani encore aujourd'hui, 21 ans après sa mort?
Il a un aura parce que déjà c'était un écorché vif. Voilà, il y avait une histoire derrière, il y avait quelque chose. Et en plus, il n'était pas méprisant dans la victoire, comme a pu l'être Armstrong, et je pense que certains le savent. Et il y a un côté sur lequel on s'attachait. C'était quelqu'un qui gagnait, mais qui restait discret. Alors oui, il a fait ce qu'il a fait, mais comme vous l'avez dit, il l'a fait dans une période où tout le monde faisait. Comment on pouvait s'en sortir? Enfin, le vélo, s'il n'y avait pas eu l'omerta du vélo, et l'omerta, malheureusement, il continue dans notre sport, peut-être qu'on avancerait sur autre chose. Mais il y avait un côté, respect. Oui, il l'a fait, mais il a une vie. Et moi, ce que j'aimais, c'est il gagnait. Oui, il dominait. Il a fait des choses, mais après, ça retombait. Il y avait une certaine discrétion, comme si des moments, je ne sais pas si vous avez senti ça, mais comme s'il avait honte d'avoir gagné, ou comme si c'était quelqu'un avec une certaine humilité.
Il pouvait, ouais.
Mais aujourd'hui, par contre. Si vous demandez qu'est-ce qu'a fait Armstrong, malgré qu'on lui a enlevé les Tours de France, les gens vous diront qu'il a gagné le Tour de France, malheureusement. Donc aujourd'hui, d'enlever ou de ne pas enlever, une fois que c'est gagné, c'est acquis dans la tête des gens.
Donc il faut
relativiser.
Alors,
mais dans ce cas-là, dans le vélo, on se remet. Le problème,
mais moi, c'est j'ai une pensée pour tous ceux qui marchent à l'eau claire et qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, justement parce qu'ils marchent à l'eau claire. C'est ça qui me fait de la peine. Tu vois, on ne parle que de ceux qui gagnent et de ceux qui ont triché. Alors, c'est lamentable de tenir ce genre de discours. Voilà.
Alors juste, moi, je vois ce qui se passe aussi sur ceux qui nous écoutent et sur l'appli RMC Direct Studio. Il y a beaucoup de gens qui disent « Merci David d'avoir ces mots-là. Continuez, monsieur Douillet. » Il y en a qui sont un peu surpris.
Je vais reprendre ma voiture, je vais lire tout ça.
Tu défends un tricheur, certains parlent de tricheur.
Je défends pas un tricheur, je défends un personnage à part dans un monde où tout le monde était comme lui. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans la comparaison.
Sois honnête, mais c'est pas vrai ce que tu dis.
Avant 98, si.
Moi, tous ceux qui gagnaient, oui, peut-être, mais il y avait certainement au moins une personne qui n'était pas comme lui. Mmh. Tu peux pas dire que tous les participants. Donc tu dis que tous les participants au Tour de France étaient tous dopés.
C'était un système. C'est ça que tu dis. Nous expliquait
Jean. En 98, que les choses soient claires. Malheureusement, en 98, 99% peut-être, ouais.
Donc il reste 1%. Moi, je parle de ces 1%. Okay. Voilà.
Merci beaucoup,
Vincent. Pour moi, en plus de valeur.
Merci Vincent d'être passé. Tu reviens quand tu veux dans les grandes gueules du sport. Et le débat continue sur les réseaux, sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC Direct Studio. Et on revient dans un instant avec un débat caché. Alors je sais pas si
j'espère qu'il est de même niveau quand même.
Là, c'est comme comparer Paris 2024 avec les JO 2030. Ça ne sert à rien, Christophe. Ne compare pas ce débat avec le débat caché. On est d'accord.
J'espère que tu as été bon.
On revient dans un instant. A tout de suite sur RMC.
Meilleur que j'y sais.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Les grandes gueules du sport en direct et en podcast maintenant. Vous pouvez retrouver le podcast sur l'appli RMC. Pascal Duprat, Jérôme Pinot, Christophe Cessieux, David Douillet, qui sont en grande forme depuis 9h ce matin. Mais on va voir s'ils sont encore en forme jusqu'à la fin de l'émission. Il vous reste 12 minutes, les amis.
Ça va dépendre du débat caché.
Et tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
C'est un bon débat caché, on sera en forme.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Quelle pression! Quelle pression sur les épaules! Je ne sais pas si je vais tenir, Christophe. Hein. Les grandes gueules ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre, vous le savez. Le guet-apens du jour, il fallait écouter un podcast RMC et les mots du cycliste Benjamin Thomas.
Je préfère du cyclisme avec des émotions que du cyclisme tout calculé et où on base tout sur la science, les chiffres et voilà. C'est nous, on court pour se faire plaisir, on court pour gagner et pour que les gens aiment le vélo.
Voici les mots de Benjamin Thomas, coureur Cofidis, invité de l'excellent podcast RMC Grand Plateau, à retrouver évidemment toutes les semaines sur les applis et sur RMC, sur l'appli RMC. Et il parle de vélo, mais nous on va élargir le débat. À cette remarque qui peut être collée à tous les sports, à de nombreux sports qui intègrent les data, les données, peut-être bientôt l'intelligence artificielle, que ce soit dans le recrutement, dans le management, dans la gestion des courses. D'où cette question, les GG. Est-ce que les data gâchent le sport aujourd'hui ? Oui ou non ? Pascal Duprat.
Ah, c'est difficile de répondre.
Je vais dire non. David Douillet.
Non, à partir du moment où tout le monde est sur le même pied d'égalité.
C'est un petit non. Jérôme Pinault.
Pour une certaine idée du sport, oui.
Christophe Cessieux.
Alors, je ne sais pas dans tous les sports, mais sur le vélo, moi, il me dérange.
Donc ça peut gâcher le sport.
Mais on parlait bien de tous les sports.
Hein, tous les sports,
il faudrait étudier un peu là, tu vois. Il nous prend au dépourvu comme ça. Il nous balance le truc. On ne peut pas tout savoir. Mais le débat caché, c'est une question un peu futile souvent, tu vois, où on n'a pas besoin de réfléchir et pas besoin de travailler.
T'as jamais réfléchi à cette question?
Si, sur le vélo, mais sur le basket, je ne sais pas. Par exemple, les data sur le basket. J'en sais rien.
Christophe, tu veux qu'on change exceptionnellement le débat caché? Est-ce que Mbappé est redevenu Mbappé? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Fais pas ton drouet, s'il te plaît. Ne fais pas ton drouet.
Alors, Jérôme, tu m'as fait quand même oui. Hein, les data gâchent le sport. Tu as réfléchi, évidemment, quelques secondes avant de nous dire ça.
C'est-à-dire que ma capacité à réfléchir est beaucoup plus étroite que celle de Christophe. Moi, c'est vite fait. On a vite fait le tour. Et je dis oui parce que j'ai tout de suite pensé au mien de sport, d'abord. Et parce que je pense qu'il a beaucoup d'influence dans ces sports d'endurance qui durent un peu longtemps et ces sports un peu... Je peux comprendre que Pascal n'avait pas répondu comme moi parce que dans le football, je pense pas que ça gâche. Enfin, je crois pas.
Ouais. La VAR qui gâche plus
dans que le vélo.
Tu parles que de chiffres.
Même
dans le
pas,
foot,
oui,
tu peux trouver que ça gâche. Mais ça joue pas sur le déroulé de la course, de la compétition. Je pense pas qu'un joueur sur le terrain se dise tiens, je ne suis qu'à 4 courses à haute intensité, faut que j'en fasse une 5e. Tu vois pas des mecs courir dans tous les sens. Alors que dans le vélo, ça contrôle la course, quoi. C'est-à-dire qu'on en est même arrivé l'an dernier. Rappelle-toi, on en avait parlé tous les deux dans notre émission de dire Jumbo Visma avait fait une data room. Quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient carrément créé une voiture, un véhicule avec l'analyse data en direct. Et c'est vrai que dans mon sport, et je rejoins Benjamin Thomas qui fait du vélo à l'ancienne un peu, même si voilà, les coureurs comme lui sont en train de disparaître, hein, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, dans ce que je connais le mieux, c'est le vélo. Oui, ça gâche un peu le sport parce qu'on est calé sur des niveaux de watts, calé sur une position. On met tel et tel coureur devant l'un et l'autre, et puis on réfléchit à combien il va falloir de watts pour passer la prochaine difficulté. On prend plus de risques en fait, on limite la prise de risque. Et moi, ce que j'aime dans le vélo que j'aime, parce qu'il y a des gens qui aiment
ce vélo-là, ça enlève la spontanéité.
Et c'est pour ça que mon Marseille Pagnol à moi, alias Pascal Duprat, ça m'étonne que tu aies répondu ça parce que
ça enlève du romantisme
aussi, tu vois.
Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où c'est une assistance à la performance, ça me va. Quand c'est à dose homéopathique, je te prends un exemple. C'est peut-être pas des datas, mais dans votre sport, tu vas peut-être me contredire. Pour moi, l'oreillette,
j'oserais jamais.
Ça me gonfle.
Moi aussi.
Pour le côté spontané du sport. Après, pour les données, les données athlétiques, c'est valable pour nous. Dans les données athlétiques, c'est important de connaître.
Mais ça va jusqu'au recrutement, Pascal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute uniquement sur
au recrutement, oui, mais à condition que ça ne serve que de support. Parce que bien souvent, dans la data, pour ce qui est du recrutement, on oublie le contexte, l'environnement. Tu vois, on observe que les data, tout ce qu'on peut quantifier, nombre de centres, nombre de frappes, nombre de kilomètres parcourus, nombre de distances à haute intensité, et j'en passe, et des meilleurs. Mais on oublie aussi souvent de prendre soin de l'environnement. Dans quel environnement évolue-t-il le joueur?
Moi j'ai dit non parce que je me suis dit si on arrive à rendre quelque chose d'équilibré et de juste, si tout le monde fonctionne avec à peu près les mêmes niveaux techniques, technologiques, pourquoi pas pour améliorer le potentiel de chaque athlète, pourquoi pas. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est le côté robotique de la data.
C'est ça, oubliez l'humain.
C'est-à-dire que on est des jeunes là dans nos clubs, quels que soient les sports, qui vont être entraînés qu'à la data. Donc un jeune de 12-13 ans qui sera dans cette configuration là n'aura même plus la mécanique de création. L'éducation et même de créer, d'aller plus loin, de pousser les barrières, d'être lui-même, et parce que les barrières ont été imposées par quelque chose d'artificiel, de technique, alors que son propre potentiel, quelquefois, pourrait aller beaucoup plus loin que cette moyenne globale.
Ses limites,
voilà.
Parce
qu'on aura conditionné ses limites, en fait. C'est ça qui est absurde.
Non, mais c'est valable pour l'analyse, tout simplement. Là où c'est valable, les data, c'est pour l'analyse. L'analyse d'une performance.
Dans le cœur de l'action. Voilà.
Exactement.
Dans le cœur du sport. Parce que
surtout pas pour brimer, pour brider le sportif et son élan et son.
Alors, on a réussi à mettre d'accord. On a réussi à
poser une question. Est-ce que les data de Zinedine Zidane lorsqu'il avait 12 ans lui auraient permis de devenir le joueur que
bonne question.
Qu'on connaît.
Bah non, parce que c'est un artiste.
S'ils sont bien employés, oui.
Alors,
au départ, mais quand t'as posé data, t'as posé un cadre. Et si le gars, il est en dessous du cadre, et ben on se dit, ce sera jamais un grand footballeur, alors que c'était le plus grand au monde. Voilà.
Avec l'avocat et le procureur, on peut pas en passer une.
Écoutez, David, les data dans la préparation athlétique, c'est fondamental pour savoir cibler la préparation.
J'ai les data là, on me dit là, grâce à Maxime Abolin. J'ai vos data. Vous avez été très mauvais. Vous n'avez pas été mauvais, vous avez été très mauvais. Non, vous avez été parfait, les gars. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci et très belle journée à vous. Mais oui, mais on pourrait faire une heure de plus. Hein. Mais c'est Jean-Christophe Drouet qui ne veut pas. Parce qu'après, évidemment, c'est compliqué.
Ah non, parce qu'il a les paris.
Et puis les paris RMC, c'est une très bonne émission où on se base sur les datas. C'est dans un instant. Merci à tous. Les GG reviennent la semaine prochaine avec le retour de Jean-Christophe Drouet. Vous l'avez compris. Et vous avez été parfait, les amis.
Pas sûr.
À bientôt. Merci à tous. Tout de suite, les paris RMC avec la Dream Team.
Ciao. À bientôt.
Et au programme, la suite de la 22e journée de Ligue 1, la moulinette de notre Dream Team de parieurs. À tout de suite.